Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que pour elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider. » « Et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe après l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, « Le maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux aux cieux et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Le Christ, rédempteur de l'homme, est la clé du cosmos et de l'histoire. Cette phrase du Concile de Vatican II revient souvent dans ma mémoire, dans mon cœur, dans ma méditation. Le Christ est la clé du cosmos et de l'histoire. Avec le Christ et par lui, tout est changé. Ou plus exactement, avec le Christ et par lui, tout prend sa signification réelle. Tout est vu dans la lumière. L'eau n'a plus le même sens. On le voit dans la conversation entre Jésus et la Samaritaine. « Donne-moi à boire, tu qui n'a rien pour puiser, le puits est profond. Si tu savais celui qui te demande à boire, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé l'eau vive. La Samaritaine peu à peu va découvrir ce que c'est que cette eau que Jésus donne. Le pain n'a plus la même signification. Nous parlons, nous, du pain de la terre. Jésus parle du pain qui vient du ciel et qui est donné comme nourriture pour le monde. Même l'amour n'a plus la même signification. Nous parlons d'un amour humain. Nous vivons d'un amour humain. Jésus, lui, nous fait découvrir peu à peu la profondeur de l'amour divin. Je le dis à chaque mariage que je célèbre. Vous êtes entrés dans cette église liés par un amour humain. Vous sortirez de cette église liés par un amour divin. Ça n'a plus le même sens. La paternité n'a pas le même sens. Quand Marie dit à Jésus qu'il retrouve après 3 jours, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Regarde dans quelle angoisse nous t'avons cherché, ton père et moi. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ?» dit Jésus. « Ne devais-je pas être aux affaires de mon père ?» Mais de quel papa tu parles? Lui parle de son père du ciel, et pourtant il parle encore du père de la terre. La maladie n'a plus la même signification. Jésus tout à l'heure dit cette phrase énigmatique. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Il avait déjà dit quelque chose de semblable devant l'aveugle de naissance. Ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée qu'il est né aveugle. Pour que. La vie et la mort n'ont plus la même signification. Jésus dit, Lazare dort. Alors s'il dort, il va se réveiller, disent les apôtres. Non, Lazare est mort, mais d'une mort qui n'est pas la mort définitive, qui n'est pas la mort grave. Cette mort-là n'est pas grave. Elle n'est pas la fin de tout. En réalité, c'est la résurrection de Jésus qui change tout. Jésus a franchi la mort. Et par sa mort, il a renouvelé toutes choses. Tout, absolument tout, est renouvelé par la mort et la résurrection de Jésus. Une brèche a été creusée dans le mur de la mort. La mort n'est plus la fin de tout, la mort est un passage. Mais regardez notre vie. Soit on vit avec un horizon à la mort, à la tombe, au cimetière, soit on vit avec un horizon qui est dans le ciel, tout est changé, plus rien n'a le même sens. Est-ce que nous vivons, nous, selon la chair, pour reprendre les termes de saint Paul, tout à l'heure parle aux Romains, est-ce que vous vivez sous l'emprise de la chair? Alors vous ne pouvez pas plaire à Dieu, et votre vie est déjà caduque. Ou bien vous vivez dans l'Esprit Saint, ou bien, parce que c'est presque la même chose, l'Esprit Saint vit en vous. Vous êtes, comme il disait dimanche dernier, des enfants de lumière. Vivez donc comme des enfants de lumière. Alors tout sera changé pour vous. Si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. C'est vrai, c'est un vocabulaire qui est difficile pour nous. Nous avons de la peine à entrer dans cette perspective. Et les phrases de Jésus nous paraissent quelquefois un peu difficiles parce que les mots qu'il emploie n'ont plus la même signification. Avec les années, peu à peu, on apprend à lire les paroles de Jésus dans la lumière de l'Esprit Saint. Et peu à peu, tout doucement, on apprend à décoder ce vocabulaire nouveau. C'est ce qui rend aussi ce passage de la résurrection de Lazare, comme les 2 autres grands passages que nous avons lus il y a 15 jours et il y a 8 jours, la Samaritaine et puis l'aveugle de naissance. C'est ce qui rend ces passages un peu délicats et difficiles parce que Jésus à la fois nous montre qu'il est Dieu, fils de Dieu, qu'il a pouvoir sur toutes choses, qu'il a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la recevoir de nouveau. Jésus montre qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, et que même la maladie et la mort vont manifester cette puissance. Mais en même temps, Jésus montre qu'il est homme, vraiment homme. Il pleure devant le tombeau de son ami Lazare. On est étonné de ce qu'il pleure, parce que s'il est Dieu, et d'ailleurs on a tendance à dire comme les spectateurs de ce moment, il a ouvert les yeux de l'aveugle, il aurait bien pu empêcher la mort de son ami. Jésus est pleinement homme, il vit les sentiments humains dans une totale pureté, dans une totale vérité. Et quand Jésus aime quelqu'un, il l'aime en vrai. Il l'aime pour de bon, avec tout ce qu'il est dans son cœur d'homme. Je pense même que Dieu s'est fait homme pour pouvoir vivre en plénitude tout ce que l'homme vit. Dieu, qui est insensible puisqu'il est esprit pur, s'est incarné, il a pris chair pour pouvoir vivre en plénitude tout ce qui est de l'homme. Il connaît tous nos sentiments par le dedans. Il éprouve tout ce que nous éprouvons, mais lui d'une façon parfaite, parce que rien n'est obscurci par le péché chez lui. Rien n'est altéré par le péché. Et donc il vit les sentiments en vérité, peut-être décuplés par la pureté de son cœur, par la pureté de son âme. Jésus nous montre que les sentiments que nous vivons sont légitimes. C'est légitime de pleurer quand on a quelqu'un qu'on aime qui est mort. Il est légitime de pleurer quelqu'un qu'on aime et qui disparaît. Il disparaît de nos regards. Nous croyons, nous savons, nous avons la certitude dans la foi qu'il n'a pas disparu pour toujours, qu'il n'a pas disparu en vérité, puisqu'il est auprès de Dieu. Cessons de dire, comme on l'entend si souvent, « J'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu un enfant ». Mais non, il n'est pas perdu. Il est mort, oui, et c'est douloureux, oui. Et je revendique absolument le droit de pleurer, oui. Mais il n'est pas perdu, il est auprès de Dieu. Il est auprès de Dieu dans une situation qui est difficile pour nous, qui est même un peu incompréhensible. Mais dans la foi, nous croyons que ce qu'il est maintenant dans le cœur de Dieu est en attente de la résurrection. Nous le disons à chaque messe du dimanche, je crois en la résurrection de la chair, je crois à la résurrection des morts, je crois que à la fin, toute chair ressuscitera pour être renouvelée entièrement. Pas facile la résurrection de la chair. Je crois profondément que je vivrai pour toujours, que je vivrai sans fin, sans limite, en Dieu et avec Dieu et par Dieu. Mais ce que je crois, je n'ai aucun support imaginatif pour le vivre. Je n'ai aucune image pour vivre cette résurrection. Je ne sais pas. Souvent, je pense à ceux qui, autour de moi, proches de moi, sont morts, mes parents, ma sœur, les très proches que j'aime. Très souvent, je me pose la question, mais où sont-ils? Comment sont-ils? Que font-ils? Comment vivent-ils ce que je vis là? Je ne sais pas. Aucun support pour l'imagination. Je crois. Et Jésus va poser cette question inouïe à Marthe. « Je suis la résurrection et la vie, dit-il. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit en moi ne connaîtra jamais la mort. Crois-tu cela ? Oui, je crois que tu es le Messie, que tu viens de la part de Dieu, que tu viens dans le monde. Mais non, Marthe, c'est pas ça que je t'ai dit. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? Oui, je crois que tu es le Messie. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Je comprends Marthe. Je comprends qu'elle est aveuglée par sa douleur, sa tristesse. Je comprends qu'elle a en même temps une foi très forte parce qu'elle est capable de dire à Jésus qu'elle croit qu'il est le Messie, ce qui est déjà pas si mal. Elle reconnaît en Jésus le Messie, celui qui vient de la part de Dieu, celui qui vient dans le monde, celui qui va changer toutes choses. Oui, Marthe croit tout cela. Mais quant à croire que Jésus est la résurrection et la vie, ça c'est autre chose. Est-ce que nous le croyons, cela ? Je ne suis même pas sûr de comprendre ce que je crois. Je suis la résurrection, dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis la résurrection. Je suis la vie. Jésus ne dit pas « je suis vivant », il dit « je suis la vie ». Jésus ne dit pas « je vais ressusciter » ou « je suis celui qui ressuscite ». Jésus dit « je suis la résurrection ». Un peu de la même façon, la Vierge Marie à Lourdes dira à Bernadette non pas « je suis conçue immaculée », mais « je suis la conception immaculée ». Ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Moi, je suis vivant, mais je ne suis pas la vie. Moi, je suis un homme, mais je ne suis pas l'homme. Jésus, il est la vie. Moi, je vais ressusciter, je le crois. Je ne suis pas la résurrection. Jésus, il est la résurrection. Il est celui qui, de rien, est vivant. Difficile à dire. Il est celui qui donne la vie, il est celui qui est la vie, il est celui qui... C'est aussi difficile que cette phrase que Dieu avait dit à Moïse dans le buisson ardent, « Je suis celui qui suis ». Il y avait un moine qui passait comme ça toute sa vie à travailler cette seule question. Cette seule question théologique, qu'est-ce que ça veut dire « je suis celui qui suis » ? Je suis la résurrection. Je comprends une chose, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui croit en moi, il est en moi et moi je suis en lui. Celui qui croit en moi, nous faisons un. Et si nous faisons un, que moi je suis en lui et que lui est en moi, alors il ne peut pas mourir parce que je suis la vie. Je suis la résurrection. S'il meurt, il ne meurt pas, il vit. Même, ça va plus loin. Pour vivre, eh bien, il faut mourir. Vous voulez vivre? Alors il faut mourir. Je ne peux pas vivre en vérité si je n'accepte pas de mourir, si je n'accepte pas de mourir à moi-même. Pour vivre en vérité la résurrection, pour vivre cette vie nouvelle, il faut passer par la mort. C'est très exactement ce que vont faire les catéchumènes le soir de Pâques. Ne soyez pas étonnés de leur absence ce matin, c'était hier soir le scrutin pour eux. C'est très exactement ce qui va se passer pour les baptisés. Ils plongent dans l'eau baptismale. En plongeant dans l'eau baptismale, ils plongent en réalité dans la mort de Jésus. Plonger dans la mort de Jésus, c'est plonger dans l'amour de Jésus, puisqu'il est mort d'amour. Et en plongeant dans la mort de Jésus, il meurt avec lui et par lui, pour vivre avec lui et par lui d'une vie nouvelle. C'est profond, hein. C'est fort, c'est puissant. Vous voulez vivre? Alors il faut mourir. Celui qui veut garder sa vie la perd. Celui qui dépose sa vie à cause de moi la trouve. Vivez non pas sous l'emprise de la chair, vivez comme ceux qui vivent de l'Esprit Saint. Vivez de l'esprit d'amour, l'esprit de vie, l'esprit de vérité. Alors tout sera changé pour vous. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Mais c'est fondamental de vivre et de comprendre ça avant de fêter Pâques. Si réellement je crois en lui, si réellement je suis en lui, si lui est en moi, alors sa mort sur la croix n'est plus seulement sa mort, mais c'est la mienne en lui. Et donc sa résurrection n'est plus seulement la sienne, mais la mienne en lui. Et du coup, ma mort à moi n'est plus seulement ma mort, c'est sa mort à lui en moi. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ce n'est pas simplement une petite parole de consolation, « Ne t'en fais pas, ton frère va ressusciter. » Je ne veux pas des consolations à deux balles. Je veux une vraie consolation qui change totalement, absolument la perspective. Oui, la mort, c'est grave, parce que y a une déchirure dans le cœur. La mort reste infiniment douloureuse parce que nous nous aimons. Celui qui ne pleure pas, c'est parce qu'il n'a pas de cœur. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils ont un cœur vivant. Et le cœur, quand il est déchiré, c'est un cœur qui pleure, un cœur qui saigne. Mais ces larmes conduisent à la vie. Ah, ça aurait été plus simple évidemment, on aurait pu imaginer un Messie qui vient tout recommencer, qui supprime la mort, qui supprime la maladie, qui supprime les conséquences du péché. Et s'il supprime les conséquences du péché, il enlève la dignité de l'homme, il enlève la liberté de l'homme. L'homme n'est plus libre. Il n'est plus libre parce que son péché n'a plus de conséquences. Si son péché n'a plus de conséquences, vous réduisez l'homme à un pantin, une marionnette. Quand je pêche, mon péché a des conséquences pour moi et pour tout le monde. Jésus ne vient pas supprimer ses conséquences, il vient transformer ses conséquences pour en faire un chemin de vie. Même mon péché est capable de me conduire à la vie quand je me retourne pour demander pardon et que je reçois la miséricorde. Celui à qui on a beaucoup pardonné, dit Jésus à propos de Marie-Madeleine, celui à qui on a beaucoup pardonné montrera beaucoup d'amour. Je suis bouleversé quand j'ai découvert que mon Dieu me pardonne et me pardonne encore et encore, et qu'il pardonne autant à celui qui a péché beaucoup qu'à celui qui a péché peu. La catéchumène disait l'autre jour dans cette réunion, catéchuména, je découvre, disait-il, je découvre que l'amour de Dieu est absolument gratuit et que pour être pardonné, il n'y a rien à faire, il y a seulement à ouvrir son cœur. Alors je lui dis, ça y est, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Pour être pardonné, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à ouvrir son cœur. Puisque Dieu est pardon, que Dieu est miséricorde, que Dieu est vie, que Dieu est résurrection. Ouvrez donc votre cœur à l'Esprit, vous serez vivant. Demandons à la Vierge Marie de vivre ces 15 derniers jours qui nous séparent de Pâques, dans le sérieux de la foi. Que rien ne vienne troubler notre recherche de Dieu, notre recherche de la vie, notre recherche de la vraie consolation. C'est la Vierge Marie qui nous apprend à vivre ces moments avec toute la gravité, mais aussi avec toute l'espérance, avec la puissance de l'espérance qui nous conduit. Amen.